Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Il y a beaucoup question de prolifération des armes à feu, de multiplication des fusillades à Montréal. On est passé d'un stade il y a peut-être un an et demi où il y en avait aux quelques jours et maintenant c'est presque à chaque jour. Il y a des quartiers où ça se produit plus souvent. Il y a des quartiers où la population a beaucoup plus peur qu'ailleurs. Montréal-Nord est un de ces quartiers. Et le 10 août dernier, ben il y a une tragédie qui s'est produite parce que Jason Collin, 26 ans, un jeune homme très admiré dans la communauté, très connu, qui n'avait pas de problème avec qui que ce soit, qui n'était pas dans les milieux criminalisés, a été ciblé ainsi que d'autres amis. Jason a été touché par les balles d'un inconnu. Il en est décédé. Renéd Casséus et sa mère, Madame Casséus a travaillé pendant des années dans ce qu'on appelle le communautaire. Elle était intervenante là dans un coin, dans un HLM qui s'appelle Place Normandie. Et les jeunes du quartier la connaissaient, elle connaissait les jeunes du quartier. Et la tragédie, c'est que ces jeunes pour lesquels elle s'est dévouée, ben, il y avait aussi son fils qui a grandi à Place Normandie. Ben, il a été tué, le jeune Jason Collin. Robertson Berlus est le conjoint et beau-père de Jason Collin. Les deux sont en studio avec nous. Je suis très content de vous recevoir. Merci beaucoup.
Merci à vous de nous recevoir.
J'étais à votre conférence de presse ce matin et on va venir à ce que vous demandez aux autorités, Mme Casséus et M. Berlus. Mais avant, Renéd, j'aimerais que vous me parliez de Jason. Qui était-il?
En fait, Jason était un jeune garçon tout à fait spécial. Il était enjoué, il était affectueux, très affectueux. Il était très protecteur aussi. Donc, Jason aimait beaucoup les sports. Il a joué au hockey, il a joué au basket, il a fait du karaté. Il aimait les gens, il avait de l'entre-gens. Mais Jason, son activité de prédilection, c'était le hockey. Donc, tous ceux qui connaissent Jason, c'est impossible de pas connaître, de pas savoir qu'il aimait le hockey.
Et vous expliquiez là en conférence de presse ce matin à quel point, quand il était petit, il ne parlait que de ça, même à sa mère, que ça intéressait pas tant que ça.
Non, effectivement, et Jason pouvait en parler 24 heures par jour. Donc, tellement il était passionné et il s'y connaissait. Il s'y connaissait, donc il a essayé d'autres sports et c'était le hockey qui l'avait marqué, qui avait pris son cœur, quoi.
Et comme jeune adulte, il voulait utiliser le hockey dans le quartier comme un levier pour faire quoi auprès des jeunes?
Ben, en fait, Jason avait participé à un projet pour mettre sur pied, justement, que ce soit un organisme ou peu importe, amener plus loin le projet. Et lui, c'était pour amener le hockey plus loin, permettre aux enfants défavorisés de pouvoir jouer au hockey. Donc, même, il parlait de louer des arénas, des temps de glace. Il commençait chez nous à amasser des bâtons. En fait, tout l'équipement. Donc, chez moi, il y a vraiment un espace qui a que des objets de hockey pour que, justement, les enfants qui n'ont pas les moyens de se procurer l'équipement puissent se procurer l'équipement.
Je me tourne vers votre conjoint, Robertson Berlus, qui est travailleur de rue à Montréal-Nord, au Café Multiculturel, c'est bien
Café
Jeunesse. Café Jeunesse Multiculture. Robertson, parlez-nous de ce que vous vouliez passer comme message en conférence de presse aujourd'hui, parce que ce que vous demandez, c'est une sorte de plan d'action.
Oui, en fait, c'est sûr que nous, on s'est beaucoup questionné, parce que déjà, on est dans le milieu, je suis encore à Montréal-Nord comme travailleur de rue, donc on regarde la situation, on regarde les jeunes, on regarde qu'est-ce qui se passe, puis on ne voit pas de plan clair et réel, de plan au niveau de la sécurité de Montréal-Nord, sécurité publique de Montréal-Nord, même de Montréal, on voit rien, on voit vraiment que de l'argent qui s'est injecté toujours dans la répression. Ce qui peut être correct aussi, mais c'est quoi l'objectif, c'est quoi le plan? Fait qu'on voit l'argent venir, on voit des organismes, certains organismes qui sont financés, mais on voit pas c'est quoi le plan qu'il y a derrière tout ça.
Parce qu'il y a un réel problème d'investissement dans les infrastructures, dans la jeunesse, dans Montréal-Nord, si je me trompe pas. Parce que, René, vous avez donné l'exemple de votre cas. Vous avez travaillé dans le quartier et votre organisme avait un budget de 20 000 $ par année, alors que vous occupiez d'une quarantaine d'enfants chaque jour. Et dans ce 20 000 $, il y avait votre salaire.
Oui. Et dans ce 20 000 $, il y avait mon salaire et je pense que je travaillais au moins 40 à 60 heures par semaine parce que le local ouvrait, par exemple, à 3h30, à l'heure après l'école, et on fermait quand il n'y avait plus de jeunes.
Et Robertson, vous êtes travailleur de rue et dites-le aux gens qui nous écoutent, là, il y a combien de travailleurs de rue dans ce quartier où la jeunesse a beaucoup de besoins?
On est trois pour couvrir l'ensemble de Montréal-Nord.
Ça dit quoi? Ce que vous me racontez là, puis ce que vous me dites, René, sur le fait que votre organisme avait 20 000 $ par année, ça dit quoi sur, disons, le manque d'amour que peut avoir Montréal-Nord?
On se questionne sur la volonté de certaines personnes de réellement vouloir aider ces jeunes-là. Parce que moi, mon téléphone de travail, il est ouvert tout le temps. Des fois, il sonne à minuit, des fois, il sonne à 1h du matin. D'ailleurs, quand il a sonné, ce soir-là, je pensais que c'était pour un jeune, puis on m'annonçait...
Le soir où Jason a été tué.
Oui, ce sont des jeunes qui m'ont appelé pour m'annoncer, pour me demander si Jason était à la maison, parce qu'ils ont entendu des histoires, puis ils voulaient valider l'information.
Et vous, vous êtes de garde 24/7.
Oui, c'est pour ça que j'ai répondu, parce qu'ils savent qu'ils peuvent m'appeler à n'importe quelle heure. Donc moi, j'ai répondu, j'ai dit « qu'est-ce qui se passe ?» Puis ça me concernait cette fois-ci.
Mais c'est important de parler de répression, d'enquête, de moyens policiers, ça, on se comprend, mais j'essaie, moi, souvent de parler de l'envers de la médaille, c'est l'investissement. De quel type d'investissement on manque dans un quartier comme Montréal-Nord pour s'assurer que dans 5, 10, 15, 20 ans, il y ait de moins en moins de jeunes qui tombent du côté sombre de la force, disons ça comme ça?
En fait, premièrement, une des choses que on pourrait donner des milliards de dollars dans un quartier, s'il n'y a pas de considération pour une certaine communauté, on perd son temps. Et on le voit parce que Jason est décédé, certes. Il y a quand même des amis qui ont été touchés. Il y a un ami qui a été touché
Atteint par balle lui aussi.
Qui a été par balle et qui vit avec la balle en lui. Et donc nous, on doit être présent. On se doit d'être présent pour ce jeune-là, pour ces jeunes-là en fait qui en ont besoin. Mais outre que nous, quel support que ces jeunes-là ont reçu? Qui les a encadrés? Qu'est-ce qu'il en est? Donc oui, on parle de la mort de Jason. Et Jason, malheureusement, il ne reviendra plus. Mais ces jeunes-là qui sont encore en vie, le jeune qui vit avec la balle à l'intérieur de lui, psychologiquement, est-ce que ces jeunes-là sont considérés? Est-ce qu'ils sont des personnes à part entière dans la société que nous sommes? Parce que oui, la répression, c'est une partie. Mais considérer quelqu'un et voir comment peut-on... Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour prévenir et... avant d'arriver à des situations aussi désagréables.
Qu'est-ce que vous aimeriez voir concrètement en termes de considération, disons?
Ben, premièrement, c'est que lorsque, par exemple, nous qui sommes, on peut dire, assez connus à Montréal-Nord, qui avons vécu cette situation jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas reçu de considération ou d'aide de la part d'aucune institution ni d'aucun organisme. Donc, c'est pour ça qu'on tient vraiment à remercier Mme Bray, la femme du premier ministre, qui a fait le déplacement pour venir...
Isabelle Bray est allée vous voir.
Isabelle Bray, pour venir entendre ce que nous, on avait à dire en tant que parents et comment est-ce qu'elle pourrait amener le message un peu plus loin, si possible. Cependant, nous, après, on va dire ensemble, on a 38 ans, 40 ans d'expérience sur terrain, de voir comment que nous, on a été laissés pour contre. On se demande, ben, les familles qui sont moins, on va dire, moins entourées que nous, qui connaissent moins le système que nous, qui viennent d'arriver dans le système, comment est-ce que eux vont composer avec une perte comme la perte de Jason?
C'est de là qu'on parle de considération aussi, parce que ce sont des gens qui sont mis à l'écart, comme ils sont mis à l'écart totalement.
En parlant des jeunes.
En parlant des jeunes, en parlant des résidents en général, comme si ton père ou ta mère est mis à l'écart, qu'est-ce qu'il en est de toi? C'est de ça qu'on parle aussi. Puis oui, il y a de l'argent d'injecter, mais est-ce que l'argent va dans la direction des besoins réels? Est-ce que l'argent est injecté au niveau des organismes qui rejoignent ces jeunes-là? Parce que si, comme je disais plus tôt, si on veut vraiment développer le hockey, on n'investit pas au basket.
Oui, vous avez utilisé cette métaphore-là en disant qu'il faut cibler l'argent dans les bons organismes. Oui. Si on veut créer des joueurs, des joueuses de hockey, on n'investit pas dans le basket. Oui. C'est pas comme ça que ça marche. Mais je décodais de votre message, Robertson Berlus, qu'il y a de la chicane entre les différents organismes dans Montréal-Nord sur le financement.
Je vous dirais oui, il y a clairement de la chicane, il y a aussi du favoritisme, il y a du copinage qui se fait. On a de sérieux doutes sur les comment la répartition des budgets est faite. On a de sérieux doutes, c'est pour ça qu'on demande à ce qu'il y ait un plan clair, parce que avec un plan clair qui est annoncé, qui est visible, si exemple Patrick Lagacé reçoit des financements, on va savoir que Patrick Lagacé reçoit des financements parce qu'il rentre dans le plan. Mais présentement, c'est quoi le plan? Pourquoi est-ce que ces organismes-là ont du financement en lien avec la situation qui est à régler? Alors que ce sont des organismes, des fois, qui sont même pas proches des jeunes qui sont visés.
Comment vous expliquez ça?
Je ne l'explique pas parce que le budget, c'est pas moi qui l'ai.
Et qui l'a?
L'arrondissement.
Les décideurs.
Les décideurs. C'est eux qui ont cet argent-là. Donc, moi, je défends que on se questionne. Comme vous le saviez déjà, dans la dernière année et demie, ce sont deux fondations qui m'ont permis de garder mon emploi.
Ce sont pas des fonds publics, là. La fondation Chagnon
et Saputo, qui m'ont permis de garder mon emploi, alors que présentement, je crois sincèrement que l'organisme principal qui est capable de rejoindre les jeunes qui sont en lien avec toute forme de violence, ce sont des travailleurs de rue un peu partout au Québec. Et le seul organisme de travailleurs de rue à Montréal-Nord n'est pas financé par son arrondissement.
Si je comprends bien ce que vous me dites, c'est que la violence armée, c'est un symptôme de quelque chose d'un peu plus social.
Clairement.
Effectivement.
Clairement, parce que il y a des armes dehors en circulation, il y en a beaucoup. Est-ce que vous avez besoin de procurer une? Non, parce que vous n'avez pas ce besoin-là.
Pensez-vous qu'on... OK, question délicate. Pensez-vous qu'on s'en soucie à l'échelle de Montréal, de la région de Montréal, du Québec, parce que ça a commencé à déborder la violence des cadres de Montréal-Nord?
Je sais pas sincèrement, parce que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'argent est injecté pour enlever les armes, beaucoup d'argent est injecté pour calmer la population, mais très peu d'argent est injecté pour empêcher que ça revienne.
Merci à vous deux, c'est un sujet important. Votre conférence de presse a été très couverte par les médias. Je m'adresse à vous, Ronid. C'était très émouvant de vous entendre parler de votre fils. Et je pense qu'il faut parler des gens qui sont touchés au premier chef par cette violence-là. C'est souvent dans des quartiers comme Montréal-Nord. Je vous remercie tous les deux.
Merci de nous avoir reçus.
Merci.
C'était Ronid Kaseus, la mère de Jason Collin, très impliquée dans le quartier, travaillée dans le communautaire pendant une quinzaine d'années. Robertson Berlus, qui est le beau-père de Jason, le conjoint de Mme Kaseus, qui lui est toujours travailleur de rue.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
MC et Catherine, vous avez peut-être vu sur les médias sociaux aujourd'hui, c'était pas mal le Talk of the Town virtuel. C'est une caricature du journal The Gazette. Et ça a suscité beaucoup de réactions jusqu'au chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui s'en est offusqué. Je la décris, OK, pour les gens qui ne l'auraient pas vue. C'est une affiche de René Lévesque, et 1922-2022. Les 100 ans de René Lévesque, avec une photo de l'ancien premier ministre, cigarette au bec. Et là, il y a une vieille dame, elle est penchée par-dessus sa canne, et elle a un chien en laisse, petit chien. Petit chien, un drapeau du Canada. Le drapeau du Canada pisse sur le poster, au pied du poster de René Lévesque. Jacques Goldstein est l'auteur de la caricature, alias Boris. Il est au bout du fil. Monsieur Goldstein, bonjour.
Bonjour.
C'est la première fois que je voyais une caricature de vous. Êtes-vous meilleur d'habitude?
Ben, en fait, je dessine une fois par semaine dans la Gazette. Et je suis vraiment surpris de la réaction que suscite cette caricature-là. Parce que vous avez très bien décrit la caricature. Et en fait, ce qui m'a inspiré, c'est René Lévesque était un homme que j'admirais énormément. Et il faut savoir, faut avoir vécu dans les années 70 aussi pour voir qui était ce personnage-là, plus grand que nature, un personnage qui était un policier qui était pas du tout arriviste. C'était quelqu'un qui était passé par la télévision, Point de Mire, etc., grand reporter en Corée, etc., et qui, à un moment donné, je dirais qu'il a donné un peu sa vie à la politique pour ses idéaux. Et donc, ça situe un peu mon opinion de René Lévesque. Et dans ce concert de louanges qu'on a avec les reportages à Radio-Canada, dans Le Devoir, La Presse, le Journal de Montréal, etc., moi, j'ai représenté une espèce de petit caillou dans le soulier, ou une espèce de grain de sable dans l'engrenage, et il y a cette espèce de vieille madame, de cette espèce de vieille grébiche là, qui est là, avec son chien. Son chien, c'est une espèce de petit roquet, et alors que tout le monde fait l'éloge de René Lévesque, et là, elle il y a cette espèce de petit chien qui fait un petit pipi qui manque de respect envers René Lévesque. Et pour moi, c'est ça, une caricature, c'est de montrer, il y a une espèce de d'euphorie, de bonheur total, et il y a cette vieille gribiche-là, j'aurais pas représenté un jeune homme avec son berger allemand ou quelque chose comme ça, mais c'est une vieille, peut-être une vieille madame de Chilton, ou peut-être une espèce je me souviens le film de Tati Daniel, c'est un peu
monsieur,
ça.
Monsieur Goldstein, oui. Je veux dire, le contexte est important en humour, c'est pas à vous que je veux dire ça. La Gazette a un passif avec le Parti québécois, on va dire ça comme ça. Je sais pas si vous vous rappelez d'une caricature de Louise Baudouin en SS quand elle était ministre responsable de la loi 101. Je veux dire, on regarde les caricatures, oui, disons, d'un autre œil quand il s'agit des leaders souverainistes dans la Gazette.
Oui, c'est exact, mais cette caricature-là a été faite par l'autre caricaturiste, le caricaturiste régulier de SS. Et c'est drôle parce que je pense que Eastland avait même offert à, j'ai appris ça récemment, qu'il avait offert à Louise Baudouin et qu'il lui avait écrit un petit mot sur la caricature. Donc ça dépend toujours comment c'est interprété, mais mon intention n'était pas de blesser. En fait, la caricature.
Mais c'est quoi que vous vouliez dire avec le dessin? T'sais, souvent, là, regardez, moi, je suis pas pour la déférence absolue envers les personnages politiques. Là, on parle quand même de quelqu'un qui est mort il y a 35 ans. Qu'est-ce que vous vouliez dire avec ce dessin-là d'un chien qui fait pipi au pied du poster de René Lévesque?
Ben, en fait, écoutez, si j'ai à expliquer la caricature, d'ailleurs, faudrait la voir. C'est en fait une espèce. Ce que j'ai représenté, c'était cette vieille dame qui est là, qui est un peu un reliquat d'autrefois, une espèce de fossile, en fait. Et dans le concert des opinions qu'il y a en ce moment, il y a personne qui est contre René Lévesque. C'est une personne qui fait pour son œuvre, ce qu'il a fait pour la nation québécoise, pour Hydro-Québec, etc. Mais il y a une personne, il y en a une qui l'a pas aimé, qui l'a jamais aimé, qui l'aimera jamais, et c'est une espèce de vieille dame qui est là. Et donc, c'est une espèce de caillou dans le soulier, en fait. Mais... Et je vous rassure, parce que cette vieille dame-là, l'année prochaine, elle va décéder, elle va mourir de sa belle mort. Donc, c'est une espèce de fossile, en fait, je dirais.
Si je comprends bien, M. Goldstein, là, c'est une critique des vieilles Anglaises qui pouvait pas sentir René Lévesque, c'est ça?
Ben, prenez-le comme ça. C'est un peu comme, par exemple, le fait qu'il y a le boulevard René Lévesque, mais le boulevard René Lévesque s'arrête à
Westmount, il est encore le boulevard Dorchester.
Exactement, exactement. Et je me dis, bon, ben, peut-être qu'à un moment donné, ça va changer de nom, mais pour l'instant, non. Et c'est ça, c'est cette espèce de forme de reliquat qui existait à l'époque et qui se poursuit. Mais je pense qu'on n'a pas ça chez les nouvelles générations. Je dirais que même les jeunes, souvent, même autant francophones qu'anglophones, connaissent peu l'œuvre de René Lévesque. Mais moi, ce que j'ai voulu représenter, c'est cette espèce de vieille madame qui est une espèce de, comment je pourrais dire, c'est un souvenir, c'est une espèce de, on la voit, elle est penchée, elle est voûtée, elle a un chapeau qui ressemble un peu à celui de la reine d'Angleterre, elle est vraiment ridée, etc. Et elle voit même pas ce que son chien est en train de faire.
C'est quoi les commentaires que vous avez eu aujourd'hui? Est-ce que c'est...
J'étais très étonné. Je pensais pas que cette caricature-là aurait fait, J'ai été étonné de voir que on n'a pas vu le second degré dans cette caricature-là. D'ailleurs, j'ai pas dessiné René Lévesque de façon méchante ou comment je pourrais dire, c'est une caricature de René. Et d'ailleurs, René Lévesque regarde la chose un peu avec son bégot de cigarette en train de regarder, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, c'est une caricature qui est sans parole et je comprends pas la. Il y a une chose qui est très importante, c'est que je fais une caricature une fois par semaine et j'aime pas particulièrement caricaturer des hommes politiques ou des députés ou des choses parce que un mois plus tard ça va être disparu, etc. Mais j'aime bien une caricature qui va passer l'épreuve du temps, qui va faire que peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, on va regarder ça. Et c'est un peu le travail d'un ethnologue presque que j'ai envie de faire. Et de montrer ça. Et de dire, par exemple, regardez ça. Et qu'est-ce que c'est exactement? Si on avait expliqué la caricature à un Guatémaltèque ou à un Népalais,
Monsieur Goldstein, je m'excuse là. Je comprends l'analyse ethnologique, là, mais ce que les gens ont retenu de votre dessin, là, pis c'est pas tous des caves, c'est pas tous des jeunes, là. C'est qu'il y a une Anglaise qui pisse dans la Gazette sur la face de René Lévesque.
Je pense que c'est peut-être prendre la caricature au premier degré, okay. Alors qu'il y a un
second. Est-ce que peux-tu vous soumettre que c'est une caricature que vous aurez peut-être ratée?
C'est possible, exactement. Ça dépend. Comment je pourrais dire, c'est pas. On y va avec l'instinct à un moment donné en faisant un dessin. Et c'est, on se dit bon. Quand j'essaie d'expliquer, par exemple, à mes enfants, je dis bon. À une certaine époque, la situation au Québec faisait que les Anglais dominaient, par exemple. Juste ce simple contexte-là. Et quand j'explique ça des fois à mes enfants qui ont quand même plus que 25 ans, des fois ils me disent, eux sont épanouis, ils ont jamais vécu avec cette ambiance-là, et ils sont un peu étonnés. Donc, comment je pourrais dire, le temps change, et c'est ce que j'ai représenté avec cette espèce de vieille Anglaise, qui est une espèce de, comment je pourrais dire, une personne d'un temps disparu, en fait, quelque part. Et puis, en fait, j'ai pas dessiné un gros chien, j'ai dessiné une espèce de petit roquet, qui représente un peu le reste du Canada, et c'est assez étonnant parce que René Lévesque est une personne avec énormément de charisme et puis qui a une grande signification, beaucoup plus que d'autres premiers ministres, bien plus encore que Robert Bourassa. Et au reste du Canada, je pense qu'il n'y a pas cette admiration pour il n'y a pas du tout, il n'y a pas de nom de rue qui va être nommé en l'honneur de René Lévesque, etc. Et donc c'est un peu ça que j'ai un peu symbolisé dans mon dessin.
Je dois vous arrêter. Merci d'avoir été avec nous.
Ça m'a fait plaisir.
À la prochaine. Jacques Goldstein, alias Boris, caricaturiste, hebdomadaire au quotidien de Gazette. Catherine, tu veux ajouter quelque chose?
Oui, je vais être très, très rapide. Moi, au départ, je pensais que c'était une caricature des années 80 qu'on avait ramenée.
Moi aussi, je pensais que c'était une vieille caricature, jusqu'à ce que, là, je me dise, ben non, on parle du centième de la naissance de Lévesque.
Et voilà. Et tu sais, j'aurais peut-être trouvé ça plus drôle si, par exemple, René Lévesque avait fait pipi sur la vieille madame. Tu sais, si on avait inversé les personnages, je me dis, il est resté au travers du temps, on a célébré le centenaire de son année de naissance. Je sais pas, j'aurais envoyé un autre message. Je trouve que ça faisait vieillir.
Il y a un message de monsieur, le Carl Tétu, dans la messagerie 98985, qui dit tout, à mon sens, là. Quand t'es obligé d'expliquer ta caricature, c'est que t'es passé à côté du message.
Voilà.
Tu sais, moi, j'ai, en chronique, même ici, des fois, on faisait des blagues la semaine passée. Deuxième degré, je faisais comme si j'étais tanné de MC puis que j'allais le congédier. Il y a des gens qui pensaient que c'était vrai. Ce que ça me dit, ça, c'est que ouais, peut-être qu'il y a des gens qui comprennent pas, mais peut-être aussi que mon clin d'œil radiophonique était peut-être pas assez fort. Mais là, lui, il est pas en direct. Il y a quelqu'un, il y a un boss qui a dit, ouais, on va passer ça. C'est mon bug avec ça, c'est ça. Sachant le passif de la Gazette avec le mouvement souverainiste, je veux dire, le mouvement souverainiste et les Québécois dans la Gazette des années 70-80, c'était pas super chic comment c'était décrit. Mettons, on dit ça comme ça.
Deux phrases. La première, c'est exactement ce que tu viens de dire. S'il faut l'expliquer. Deuxième, je le défendais parce que tu as le droit à la caricature.
Okay? Il y a tout à fait le droit. Okay? Moi, je dis pas qu'ils avaient pas le droit de publier, ils avaient le droit de le faire.
Ouais,
mais on est tous Charlie. Parfait, mais on va le critiquer aussi.
Tu as le droit de faire cette caricature-là. Mais crois-le ou non, je le défendais plus avant de l'écouter que présentement. Parce qu'après l'avoir entendu, il m'a expliqué exactement le contraire que ce que sa caricature démontre. Et c'est ça le problème. Si c'était une caricature dans le Journal de Montréal ou la presse, j'aurais pu peut-être assumer que j'ai pas compris. Mais dans la Gazette, le public qui lit la Gazette n'aime d'emblée pas René Lévesque, donc a compris la même chose que moi, qu'on pisse sur un ex-premier ministre. Voilà.
Rififi à la CAQ, c'est le titre de la chronique de Régis Labombe dans la presse aujourd'hui. On y décrit comment c'est pas le grand amour entre certains caquistes dans la région de Québec et Régis réserve ses meilleures lignes pour la vice-première ministre Geneviève Guilbeault. L'ancien maire de Québec est au bout du fil. Salut Régis!
Allô Patrick!
Régis, j'ai senti que, corrige-moi si je me trompe, tu l'as écrite d'un trait celle-là.
Ça a été instinctif. C'était peut-être moins compliqué.
Non, mais écoute, je vais en citer un projet, OK? J'ai un extrait. Par ailleurs, trois ministres, Geneviève Guilbeault, Éric Kerr et Jonathan Julien, ont sûrement vu leur nuit de sommeil écourtée. Ça doit bouffer des médocs pour calmer la paranoïa. On les comprend. Au moins un d'entre eux devrait se faire signifier son avis d'éviction après l'élection. Si les deux nouveaux copains, qui sont Bernard Drinville et Martine Biron, sont élus. Mais celle qui doit chavirer le plus est la vice-première ministre et, entre autres choses, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbeault, que t'appelle affectueusement GG. Est-ce que Mme Guilbeault a une bonne cote dans la région?
Ben, je pense que les gens sont en train de découvrir. Mais tu dois voir, Patrick, je me suis payé la traite, là, parce que le lendemain de mon départ à la Une du Soleil, Mme Guilbeault avait déclaré que ça allait faire du bien que je parte. Alors, imagine-toi que j'avais trouvé ça un peu indélicat. Alors.
Régis, pour citer ta chronique, tu reprends cette expression-là, puis je vais te citer. Oui. Et donc, l'arrivée potentielle de deux adultes dans cette équipe, en parlant de Biron et Drinville, avec du contenu et du jugement, ça va faire du bien. Expression familière pour Gégé qu'on lui retourne amicalement. Tu t'es fait plaisir, voilà. Là.
Je me suis fait plaisir, puis je l'ai fait sciemment.
Mais oui, je sais, quand tu l'as mis entre guillemets. Mais ce que tu dis, c'est que elle a plusieurs mentions d'échec dans son petit cahier, là.
Bon, écoute, à Québec, il n'y a pas eu de projet à part avoir déplacé une salle de jeu d'un centre d'achat à l'autre, là. Mais écoute, Patrick, c'est pas seulement moi qui le dis, là. D'autres journalistes le disent, le chef de la position de telle de ville le dit, le maire ne veut pas le dire. Mais honnêtement, à part le tramway, il ne s'est rien... À part, comment dire...
S'opposer au tramway.
S'opposer au tramway, puis essayer de nous vendre le troisième lien, il ne s'est rien passé à Québec. Puis, écoute, à Québec, on n'est pas habitué à ça. Normalement, à Québec, depuis très, très longtemps, on a des ministres forts, des gens qui mordent et qui défendent la capitale par rapport à Montréal. C'est comme un petit complexe. Mais ça, on ne l'a pas vécu depuis 4 ans. C'est pas arrivé. Puis, honnêtement... On était pas mal tous d'accord dans la région pour dire que ça manquait de force pour nous autres.
Madame Guilbeault, elle est ministre responsable de la région de Québec, là, de la Capitale-Nationale. Elle n'est pas en danger quand même dans son comté. Elle va être réélue, on se comprend.
Non, je pense pas. Je pense pas qu'elle est en danger. Ceux qui sûrement doivent en bouffer un peu plus de médoc, c'est tous ceux qui sont dans la périphérie où ça arrive sur. Tu sais, la périphérie, c'est quoi? C'est Chauveau où se présente M. Duhaime. C'est Portneuf. Même M. Kerr, ça pourrait être surprenant. Mme Biron, c'est pas fait. Les Beauce, je pense que M. Drinville, c'est réglé. Mais si le Parti conservateur monte un peu, ça montera pas seulement pour M. Duhaime, là. Il y a une clientèle que je connais bien, qui est à peu près, qui a un profil socio-économique qui se ressemble. C'est un peu la génération des radios toxiques à Québec. Alors, si c'est pour monter, je pense pas que ça va monter, ça va paraître seulement dans un seul comté, celui de Chauveau. Ça va paraître ailleurs, selon moi.
Penses-tu qu'Éric Duhaime peut être élu, d'après ce que tu comprends là, du terrain?
Oui, je pense qu'il peut être élu. Il est dans le bon comté. Il aurait voulu être dans le chute de la Chaudière où se présente Mme Biron, mais je pense que la CAQ, puis bon, la CAQ a demandé aux députés qui étaient là de retarder son annonce de départ, parce que je pense que M. Duhaime aurait choisi Chute de la Chaudière où se présente Mme Biron. Et c'est pour ça que je vous dis que Mme Biron, c'est pas fait, là. Et dans Chauveau, normalement, ça devrait aller. Vous savez que c'est le royaume de Gérard Deltel aussi, hein?
C'est vrai.
Alors, Jérôme, là-bas, c'est une icône, là. Tu sais, les gens l'aiment. C'est un bel individu aussi, là. Mais, la graine, ça ressemble pas mal, là, tu sais.
Régis, je veux t'entendre sur l'idée du Parti conservateur du Québec de faire passer un troisième lien, pas sous l'eau, mais à travers l'île d'Orléans. Est-ce que moi je regarde ça de loin, il me semble qu'on scraperait une partie d'un beau paysage. Comment c'est reçu à Québec?
Mais non, mais c'est de la démence. C'est complètement de la démence. C'est fou, là. Ça n'a pas de bon sens. Penses-tu vraiment... Moi, j'habitais 14 ans à l'île d'Orléans, Patrick, là. C'est pas vrai qu'il y a un bulldozer qui va rentrer sur l'île d'Orléans pour faire un premier travail pour faire une route. Ça n'arrivera pas. Puis de toute façon, M. Duhem, il dit à peu près n'importe quoi. L'important, c'est de s'opposer à Québec au premier ministre. Et sais-tu quoi, d'ailleurs, en passant, là, tu regardes les tracés, même du troisième lien, puis du troisième lien de M. Duhem. À un moment donné, c'est pas pour rien qu'ils ne sont pas d'études, c'est parce qu'on s'aperçoit, puis moi, j'ai quand même été à l'île 14 ans, on s'est calculé ces choses-là. On va s'apercevoir que finalement, ça ne sera pas vraiment utilisé parce que ça va prendre plus de temps pour aller là où les gens veulent aller, ceux de la rive sud qui s'en vont sur la rive nord. C'est pour ça que ça n'arrivera pas, ni un ni l'autre. C'est juste que ce qui est fâchant, c'est comme si on infantilisait les électeurs de Québec en leur présentant des conneries. Mais ce qui est malheureux, c'est que ça pogne aussi. Alors bon, rendu là, on peut rien faire, là. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est Québec, hein?
OK. En terminant, je veux t'entendre, Régis, sur la sécurité des chefs. Il y a eu des histoires, là. Tous les chefs des partis principaux là, sont, disons, suivis à la trace par des policiers. La présence policière est plus grande que d'habitude. Quelle lecture tu fais de ce changement de portrait?
Ben moi, je pense qu'il n'y a pas le choix. Il faut que ça se fasse. Il faut protéger ces gens-là. Moi, je vais aller plus loin, là, Patrick. L'incident avec Mme Friedland, là, c'est épouvantable. Là. Et tu sais que les ministres fédéraux n'ont pas de garde du corps. Hein?
Mm-hmm. Même la vice-première ministre, Mme Friedland, était seule.
Ça n'a aucun bon sens. Puis plus que ça, tous les ministres à Québec ont des gardes du corps, armés, etc., et c'est correct. Mais la mairesse de Montréal, le maire de Québec n'ont pas droit, légalement, d'avoir des gardes du corps armés. Alors toi, si tu es malade mental, tu veux faire un coup d'éclat, tu vas-tu tirer sur le ministre du Revenu, ou ben tu vas tirer sur la ministre, la mairesse de Montréal. Comprends-tu?
Mm-hmm.
Moi, quand je vois Valérie Plante, sans garde du corps, pas armé, et le maire de Québec, je l'ai vécu pendant 14 ans, moi. Puis je suis pas un peu heureux, là, tu sais. Mais ça marche pas. Aujourd'hui, il faut que tout le monde soit super protégé parce que, écoute, notre société s'améliore pas en termes, tu sais. La santé mentale, ça paraît de m'amener, ces affaires-là. On est rendu là. Alors, il faut qu'ils les protègent absolument. Puis au fédéral, il faut qu'ils changent les lois. Écoute, la vice-première ministre qui est pas escortée. Voyons donc, c'est ridicule.
Régis, il y a la question de la sécurité, puis je suis tout à fait d'accord avec toi. Je crains que ça va prendre un drame pour qu'on se réveille collectivement, puis les gouvernements se disent, il y a des gens qui doivent être protégés par des gardes armés. Ça, c'est une chose. Comment on baisse la température du climat? Penses-tu que ça se fait?
Oh non, je sais pas. Avec l'environnement des réseaux sociaux puis la multiplication des plateformes médiatiques, tout le monde veut gagner de l'argent, tout le monde veut faire du cash. Alors, pense pas que ça va s'améliorer. Évidemment, Trump a libéré ben du méchant, non seulement en Amérique, mais en Occident. Moi, ce que je dis, c'est qu'on n'a pas le choix. Tu sais, Patrick, mon garde du corps, moi, là. Il faisait tout pour essayer de se trouver des espèces de stylos qui s'allongeaient pour frapper quelqu'un s'il me trouvait. On essayait de ne pas transgresser la loi, mais on se disait, ça arrive juste une fois en passant.
Mm-hmm.
Ça arrive seulement une fois. Et quand ça arrive, tout d'un coup, tout le monde se réveille, mais il faut être intelligent avant. Au niveau fédéral, il faut absolument qu'il le fasse. Les candidats à l'élection, les chefs, ils n'ont pas le choix. Je comprends que c'est achalant. Moi, quand on me prenait en charge, même moi, ça m'arrivait une fois par année. Les gens de l'espèce de SWAT team qui étaient bon, monsieur le maire, quelqu'un veut vous tuer. Bon, OK. Bon, ça arrive une fois par année. Alors là, ils me prenaient en charge. J'avais deux gros véhicules, quatre agents qui me suivaient. Ben, c'était fatigant. Il y en a quasiment aux toilettes avec moi, hein? Alors, à un moment donné, t'aimes pas trop ça. Mais, et c'est sûr que quelqu'un qui, comme moi, j'aimais pas beaucoup ça, mais je comprenais. Alors, je dirais au chef, comprenez, acceptez la situation, puis laissez-vous protéger. C'est très, très important.
Sage parole. Merci, Régis. Toujours un plaisir de te parler. Je te souhaite une bonne journée.
Ben merci, salut.
À la prochaine. Régis Labombe, l'ex-maire de Québec, qui est maintenant chroniqueur ponctuel. Hein? Il écrit dans la presse, et quand il écrit dans la presse, bien souvent, ça fesse dans le dash, comme on dit à Lévis. Et vous irez lire sa chronique, Rififi à la CAQ, ça fesse dans le dash.
Pas plus de cassettes comme chroniqueur que comme politicien.
Non, non.
Mais c'est le fun à entendre.
Ben, tu dis, il répond aux questions.
Il y a moins de cassettes que le caricaturiste de la Gazette.
Oh, mais sérieux? Il y en a un qui voulait me tuer une fois de temps en temps. Ça me tombait sur une heure. Elle me disait, wow, respect.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
L'équipe de cette émission de radio, Le Québec maintenant, est décimée, ou presque, oui, par un problème saisonnier. Les allergies, oui, les rhumes des foins et autres font des ravages dans notre équipe. Je n'en fais pas partie, mais il y a beaucoup de gens qui reniflent et qui cherchent du Claritin et autres médicaments. Ils sont pas seuls. Il y a un Québécois sur cinq qui souffrirait de ce type d'allergie et peut-être encore plus depuis quelques années. On parlait de tout ça avec Dr Marie-Josée Franqueur, allergologue pédiatrique. Si vous avez des questions pour elle, écrivez-moi 98985. Docteur Franqueur, bonjour.
Oui, bonjour, M. Lagacé.
Je pense que c'est une saison forte, là, fin août, début septembre, pour les allergies. Je me trompe?
Ben, en fait, effectivement, au Québec, les deux pics principaux là, d'allergies saisonnières, c'est vraiment au printemps. C'est dû aux arbres, particulièrement le bouleau au Québec. Et le deuxième, là, de loin, c'est le problème de fin d'été, là, à partir de la mi-août jusqu'au premier gel, en fait, dû à l'herbe à poux.
OK. Donc là, présentement, là, les gens qui reniflent puis qui ont les yeux qui piquent, c'est à cause de l'herbe à poux.
Tout à fait, oui.
OK. Est-ce qu'il y a plus de gens qu'avant qui sont affectés par ces allergies-là?
Oui, je vous dirais même que vous avez parlé d'une personne sur cinq, là, mais on est rendu probablement même à 25 % de la population là, dans les pays industrialisés. C'est de loin la problématique allergique la plus fréquente. Là, donc, ce que les gens appellent le rhume des foins, là, le terme médical, on appelle ça une rhinoconjonctivite allergique, ça veut dire une inflammation au niveau de la muqueuse nasale et de la muqueuse oculaire. Et c'est vraiment celle qui touche le plus là, de gens. Et moi, ce que je constate, là, pour avoir une pratique pédiatrique, c'est que ça commence de plus en plus jeune. C'était souvent, on pensait que, entre guillemets, là, le rhume des foins, c'était plus un problème d'adolescent puis d'adulte. Mm-hmm. Mais je vous dirais que maintenant, je suis encore aujourd'hui, là, d'un petit de 5 ans, ça fait déjà 2 ans qu'il est pris avec des symptômes typiques. Là, donc, c'est vraiment un problème là, qui est grandissant. L'autre phénomène qu'on constate, c'est que la saison des pollens s'est allongé, certainement dû, entre autres, au changement climatique. On s'aperçoit, en fait, que la neige fond plus rapidement au printemps, donc les arbres commencent à polliniser très tôt, dès le mois de mars. Et de fait, à l'automne, ben les premiers gels arrivent souvent très tardivement. Donc, tant que la plante d'herbe à poux n'a pas gelé, ben elle continue à faire des ravages et à causer des symptômes. Alors, ça peut être pour certains gens là. On disait traditionnellement, c'est du poisson d'avril jusqu'à l'Halloween. Mmh. Mais je vous dirais ça a gratté même plus tôt puis plus tard. Alors, c'est plusieurs mois là par année où est-ce qu'on peut être très affecté.
Docteur Franqueur, je sais qu'on peut désensibiliser, par exemple, dans le cas d'une allergie aux arachides. On fait ça à petite dose, mais des fois, ça fonctionne. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec les allergies atmosphériques comme ça liées au pollen?
Tout à fait. Et surtout pour cette raison-là. Là, okay? L'avènement de l'utilisation de la désensibilisation alimentaire, c'est un phénomène qui est quand même un traitement qui est offert seulement récemment. Là, je vous dirais, on n'a pas encore énormément de recul, alors que les preuves sont faites là, depuis plus de 100 ans. Là, c'est le traitement de choix pour les allergies respiratoires, que ce soit au pollen, mais aussi aux acariens de la poussière, ainsi que pour les venins d'insectes. direct. Là. C'est vraiment de loin le traitement le plus efficace. En fait, quand on parle de désensibilisation, là, c'est expliqué aux gens, c'est que on va finalement rééduquer le système immunitaire à plus reconnaître cet allergène-là comme étant un offenseur. Et traditionnellement, on avait uniquement l'option des vaccins de désensibilisation. Mmh. Mais depuis 2013, au Canada, on a eu la plus belle avancée là, pharmacologique, je vous devrais dire, c'est d'avoir la possibilité de désensibiliser les gens avec des comprimés sublinguales. Donc, c'est très facile, beaucoup moins, si on veut, envahissant au niveau, là, de, évidemment, pour un enfant, là, de lui éviter des vaccins, puis pour un adulte, peut-être moins aussi de temps de déplacement là, du, au niveau là, de se rendre à une clinique pour recevoir les vaccins. Donc, oui, je suis contente que vous en parliez parce que c'est vraiment le traitement curatif efficace. Tout le reste, les antihistaminiques, les corticostéroïdes, c'est-à-dire les sprays dans le nez, les gouttes pour les yeux, ce sont d'excellents traitements qui vont diminuer les symptômes, mais ça va pas guérir. Donc, moi, j'appelle ça plus la thérapie Band-Aid. Là, ça va mettre un baume sur les symptômes, mais ça va revenir d'année en année. Et ce qu'on constate, c'est que malheureusement, l'inflammation peut se chroniciser puis parfois s'aggraver. Il y a des gens qui, quelques années plus tard, vont se ramasser avec de l'asthme à l'exercice, entre autres, quand ils vont dehors pendant l'été à cause des allergies saisonnières.
Donc, c'est, en fait, il y a de l'espoir. Là. Vous me parlez du traitement avec une sorte de comprimé qu'on met sous la langue. Il y a des vaccins. Mm-hmm. Donc, les gens qui sont vraiment affectés par les allergies saisonnières, ben, ils peuvent aller voir le médecin.
Il y a des solutions. Il y a vraiment des solutions. Puis, moi, je dirais, en fait, un des enjeux, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui s'auto-médicamentent par eux-mêmes. Au Canada, l'utilisation des antihistaminiques, c'est disponible sur les comptoirs de pharmacie sans prescription. Alors, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont eux-mêmes, si on veut, s'auto-médicamenter, mais pas toujours avec les meilleurs choix non plus. Mmh. Alors, je les invite vraiment à discuter avec leur pharmacien. Mais ils font partie de notre équipe, là. Je veux dire, ils sont faciles d'accès, puis ils sont super compétents, puis ils sont capables de bien conseiller les patients. Et de fait, il y a des molécules, par exemple, les antihistaminiques de première génération, pour les nommer, là, Benadryl et Clortipolon, là, c'est à bannir, là. Ces produits-là, s'ils passaient les règles d'exigence de Santé Canada d'aujourd'hui, ils seraient pas sur les tablettes. Mais là, ils bénéficient, si on veut, un peu, là, d'une clause grand-père qui sont là depuis toujours. Mais c'est terrible, tous les effets secondaires que ça amène, ces traitements-là, sur la concentration, sur la conduite automobile, sur la vigilance. Alors, c'est vraiment, puis les gens ont de la difficulté à les reconnaître parce qu'ils portent pas toujours le nom commercial. Alors, il y a des produits sur lesquels les boîtes, c'est juste le nom générique, mais les gens reconnaissent pas, si on veut, c'est quoi. Puis, ils achètent ça parce que c'est ceux qui sont en vente, parce que ceux qui sont bien placés dans la pharmacie, mais en réalité, c'est des produits qui ont énormément d'effets secondaires nocifs sur la qualité de vie des gens. Fait que ça, c'est un premier point. Puis, de deux, ben évidemment, si les symptômes ne sont pas soulagés avec ça, il existe aussi des antihistaminiques qu'on appelle de deuxième génération, donc qui n'ont pas de somnolence, mais aussi qui sont sous ordonnance. Donc, qui ne sont pas sur les tablettes, mais qui sont des nouvelles molécules. Et donc, quelqu'un qui a développé, si on veut, une certaine tolérance ou accoutumance à des produits qui trouvent que l'effet est moins bon, ben on peut leur en prescrire, puis on va aller aussi jouer sur d'autres niveaux avec, comme je disais, là, les traitements pour le nez ou les yeux. Mais moi, j'invite les gens, c'est ça, d'en parler, mais aussi d'insister parce que leur médecin, s'ils leur disent qu'ils veulent un traitement curatif, ben à ce moment-là, ces patients-là vont être flagués au niveau de la référence en allergie pour qu'on les priorise.
Excellent conseil. Merci d'avoir été avec nous, docteur Francoeur.
Ça fait plaisir. Fait que bonne saison, mais gardez les fenêtres fermées, puis essayez d'éviter d'aller faire du sport ou des activités à l'extérieur les journées de fort vent.
Parfait. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
À la prochaine. Marie-Josée Francoeur, allergologue pédiatrique.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans,
Nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.